Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. 9000, c'est rapporté par l'Express, le nombre d'exemplaires écoulés de City on Fire dans les 4 jours suivant sa parution en France le 14 janvier. Selon Elistat, le pari était risqué pour Plomb, qui aurait acheté cher ce premier et gros roman d'un inconnu, bien moins certes que les 2 millions de dollars déboursés par Knopf, mais tout de même plus de 150 000 euros. Selon le Figaro, certains parlent même de 200 000 euros. Impossible de savoir le chiffre exact, l'édition française a ses pudeurs. À cette somme déjà coquette, il faut ajouter plusieurs dizaines de milliers d'euros de frais de traduction et de campagne de lancement. Mais Tam Tam médiatique aidant, le pavé de 1000 pages du jeune écrivain américain Garth Risk-Hallberg démarre sur les chapeaux de roue. Il entre d'emblée à la 4e place du palmarès de l'Express. Après un premier tirage de 35 000 exemplaires, l'éditeur en a réimprimé 22 000. En novembre 2013, rappelle David Caviglioli dans l'Obs, la presse américaine a transformé en événement ce livre que l'auteur n'avait pas encore fini d'écrire à cause de la somme monumentale payée par son éditeur américain, Knopf, donc, pour avoir le droit de le publier. Même au pays des millions, on n'avait jamais vu un primo-romancier sorti de nulle part toucher ce qui s'apparente moins à un avaloir éditorial qu'à une prime de basketteur. Le livre blockbuster de 900 pages dans l'édition américaine est sorti en octobre dans un grand fracas chiffré. L'argent a servi d'argument promotionnel et sa réception a été ambivalente. Son excellente facture a été reconnue, mais les millions ont collé un rictus sur les fines bouches des critiques. En témoigne, rapporté par Vanity Fair, cette critique d'une férocité inouïe, parue dans le New York Post, un tabloïd très lu, qui a comparé le roman à une bouse et traité l'éditeur d'idiot. Garth Risk-Hallberg n'est pas le seul million dollar baby de la scène littéraire américaine, poursuit David Caviglioli dans l'Obs. En décembre, les maisons se sont écharpées autour de The Nest, premier roman de Cynthia Daprix Sweeney, une publicitaire californienne de 55 ans. HarperCollins l'a préempté pour 1 million. Tout le monde attend aussi la sortie de Homegoing de Yaa Gyasi, 26 ans, né au Ghana, saga transgénérationnelle qui s'étend sur 250 ans, qui commence en Afrique au XVIIIe siècle et finit à Harlem. Une éditrice a confié avoir eu envie de vomir quand elle a posé son million sur la table, qui n'a pas suffi. Knopf a surenchéri. Random House a déboursé le million, lui aussi, pour Behold the Dreamers d'Imbolo Mbue, une Camerounaise de 33 ans qui doit sortir en août prochain. Depuis 2011, une dizaine de premiers romans ont ainsi décroché des chèques à 7 chiffres dans un pays où l'avance moyenne pour un premier roman tourne autour de 100 000 dollars. Ça fait rêver une certaine primo-romancière de l'automne 2015 à cette table. L'escalade a, selon le Wall Street Journal, commencé avec Le langage secret des fleurs de Vanessa Diefenbaugh, sorti en France aux presses de la Cité dans l'indifférence la plus totale, qui ne s'est vendu à l'époque qu'à 11 400 exemplaires le premier mois, donnant des sueurs froides à son éditeur, Ballantine Books. Il a fallu attendre la sortie en poche et l'affection des book clubs très influents aux États-Unis pour que l'investissement initial soit rentabilisé. Ça n'est pas toujours le cas. Dès lors, le premier roman est-il une nouvelle bulle spéculative, s'interroge Lopes. Aux États-Unis comme ailleurs, une année éditoriale se concentre de plus en plus autour d'une poignée de livres que tout le monde veut lire parce que tout le monde les lit. Les maisons d'édition se battent pour créer l'événement, pour publier un des rares romans destinés à devenir le sujet de la conversation littéraire. Ça va vous étonner, mais même en tant qu'agent, ça ne me rend pas heureux, dit Chris Paris Lamb, jeune agent littéraire et artisan mélancolique de cette hausse des avaloirs. Je n'aime pas le capitalisme, mais c'est ce dans quoi nous vivons. Ça a beaucoup à voir avec la domination écrasante d'Amazon qui vous recommande ce que les autres ont acheté. La plupart des gens vivent à 100 km de la moindre librairie. Et en France, pourquoi de telles sommes d'argent sont-elles en jeu, s'interroge Bruno Corti dans le Figaro. Alice Monéger, responsable des éditions du Masque, est claire. Aujourd'hui, il faut être présent dans les enchères, même si l'on sait qu'on ne va pas l'emporter. Il faut être dans la boucle, faire le buzz. Pour Isabelle Lafont, à qui l'on doit chez Lattès des succès d'édition énormissimes comme le Da Vinci Code ou 50 Shades of Grey, l'explication de ces joutes financières est très simple. Il n'y a rien d'intéressant sur le marché aujourd'hui. J'ai pris des risques en achetant 50 000 euros après enchère Je suis Pilgrim de Terry Hayes. Sur la durée, le roman s'est bien vendu, mais je trouve ridicule de débourser d'énormes sommes pour des thrillers, alors même que la concurrence des séries télé de qualité est très forte. Même constat chez Francis Geffard, le patron de la collection Terre d'Amérique chez Albin Michel. Cette année, à Francfort, les éditeurs proposaient beaucoup de non-fiction, mais peu de romans. On ne sait plus ce qui fait le succès d'un livre. Les éditeurs américains et étrangers sont tétanisés à l'idée de passer à côté du nouveau The Girl on the Train. Ils se précipitent tous sur les livres qui s'en rapprochent. Il y a un côté mouton de Panurge, comme pour Olivier Cohen, le patron des éditions de l'Olivier, l'éditeur de Cormac McCarthy, James Salter, Richard Ford ou encore Jonathan Frazen, il est difficile de trouver l'écrivain important qui vendra, d'où l'excitation sur certains titres comme Six jours de Ryan Gatiss ou City on Fire, qui sont de bons livres, pas de grands livres. Le marché des serious fictions est à la peine. Les chiffres de vente des éditeurs américains de premier rayon sont tout petits. Leurs éditeurs ne comprennent d'ailleurs pas qu'on arrive en France à vendre 100 000 exemplaires de Richard Ford ou 70 000 de James Salter, des scores qu'ils sont loin d'atteindre chez eux. Ce n'est pas nouveau. Paul Auster, Jim Harrison, James Ellroy ont aussi connu leur plus grand succès chez nous. Roi en France, à défaut d'être prophète en son pays, c'est finalement tout le mal qu'on souhaite à Garth Risk-Hallberg.